Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure. C'est le moment de votre émission préférée. L'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, on a des dames dans le studio. Nous accueillons aujourd'hui Bérangère Kramrick, je ne sais plus. Directrice du CIDFF. Alors, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Nous avons aussi Léa Wiener, socio-esthéticienne, et Clotilde Bailly-Michel, juriste et référent violence conjugale. Bonjour mesdames, comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Bonjour, ça va ?
Voilà, alors le sujet est sérieux, mais même quand on voit l'intitulé, mais non, en fait, vous allez voir, il y a une bonne ambiance. Oui, il y a une très bonne ambiance dans le studio, voilà, c'est très agréable. On va d'abord écouter le Flash Info national et international, et ensuite on atteindra la première partie de cette émission, à tout de suite. Et nous voilà de retour, alors la tradition oblige, on demande toujours aux invités un petit peu qui nous parlent de leur trajectoire, une petite bio qui fait qu'ils sont arrivés aujourd'hui à ce micro, et je pense que c'est Bérangère qui va s'y coller, n'est-ce pas ?
Je crois bien que c'est comme ça que ça va se faire, oui. Du coup, je m'appelle Bérangère, j'ai 44 ans, je suis maman de 3 grands-enfants et j'ai précédemment eu une carrière militaire dans l'armée de l'air, c'est ce qui m'a amenée dans les Landes, puisque je suis originaire de Loire-Atlantique, je suis dans les Landes depuis 22 ans maintenant. Et donc à la suite de la carrière militaire, j'ai testé plusieurs choses jusqu'à ce que le CIDEF vienne à moi. Je le dis vraiment comme ça parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Mmh. Et effectivement, avec des valeurs et des missions apportées qui parlent forcément à toutes les femmes et puis à moi aussi. Hein. Donc forcément, un engagement maintenant depuis 3 ans avec une équipe, avec plein de travail hein, malheureusement, mais un travail qui est enrichissant, qui est valorisant aussi, hein, puisqu'on est vraiment sur le terrain au plus près de la population, donc on a quand même un vrai impact sur les gens, sur les Landaises. Mmh. Et donc aujourd'hui, je dirige cette super association avec une équipe de terrain qui vaut vraiment le coup.
Super, donc c'est, à vous entendre, c'est gratifiant donc.
Tout à fait.
Voilà, très bien, merci. Alors on va passer à quelqu'un qui est impatient de prendre la parole, vous l'avez tous compris, c'est Clotilde. Qui va nous parler un petit peu d'elle, si elle veut bien.
Oui, bien sûr. Clotilde Bailly-Michel, du coup. Je suis juriste et référent violence conjugale au sein du CIDFF des Landes. Moi, je suis originaire d'ici. J'ai fait toutes mes études secondaires à Dax. Et puis, après le bac, j'ai décidé de m'exiler. Effectivement, je suis partie en Angleterre, mm-hmm. où j'ai fait 4 ans de licence en droit international et droit européen. Et puis, Brexit et Covid oblige. J'ai pas eu trop le choix que rentrer. Je me destinais plutôt à une carrière là-bas. Mmh. Et puis, je suis revenue sur Limoges pour faire un master 1 et 2 droit pénal international européen.
D'accord.
Et à l'issue de tout ça, j'avais très envie d'intégrer aussi les institutions européennes pour plutôt des causes qui me parlaient comme l'égalité femmes-hommes, les violences, etc. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir sur Bordeaux auprès du secrétariat général pour les affaires régionales qui est relié à la préfecture de région. Et j'ai fait 1 an auprès de la commissaire à la lutte contre la pauvreté là-bas. D'accord. Et ça m'a vraiment ouvert la voie du social, voir un petit peu tous les acteurs de la précarité, de la solidarité. Et en fait, de fil en aiguille, l'opportunité aussi de revenir dans les Landes et intégrer le CIDFF, qui traite quand même aussi de toutes ces interrogations-là au niveau précarité, solidarité. Mmh. Et puis, bien sûr, allié avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Voilà. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour de Léa.
Oui, je crois bien que c'est à moi. Donc moi, je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, je suis maman d'un petit garçon d'un an et demi. Je suis originaire des Landes, j'ai fait mes études dans les Landes et j'ai travaillé en parfumerie pendant une dizaine d'années. Et une envie de changer de voie tout en restant autour des femmes, du bien-être des femmes. Et c'est une cause qui, bien évidemment, me tenait à cœur comme toutes, je pense, ici. Et me voilà arrivée au CIDFF pour animer des ateliers pour des dames qui ont eu des parcours de vie très compliqués, oui, et leur redonner confiance en elles autour de l'esthétique, mais une façon différente de l'esthétique que j'abordais du coup tout au long de ma carrière.
D'accord, moi c'est intéressant, merci beaucoup. Alors maintenant on va parler un petit peu de CIDFF, mais qu'est-ce donc cet organisme, hein? Donc c'est le centre de documentation des formations sur les femmes et les familles aussi, familles. Donc en explorant votre documentation, c'est pas spécifique aux femmes, effectivement il y a aussi j'allais dire il y a d'autres opprimés que les femmes. C'est un peu bête à dire, mais hein, c'est un peu ça quand même.
C'est un peu vrai quand même.
Oui, c'est un peu vrai quand même, voilà. Donc c'est quand même une grande structure nationale, hein. Hein, donc, et ici, vous êtes, c'est une fédération, à l'échelle nationale ?
Donc, il y a une fédération nationale, effectivement, qui va travailler les grands principes au plus haut des services de l'État. Après, on est décliné par une fédération régionale. Hein, donc, nous, sur la Nouvelle-Aquitaine, on a 8 CIDFF. Et après, au niveau départemental, quasiment tous les départements de France ont un CIDFF. En tout cas, c'est effectivement la volonté. Hein, mais il y a avant tout une volonté du territoire, puisqu'effectivement, on est associatif, donc on ne vit que de subventions. Donc si l'engagement n'est pas pris au niveau étatique départemental, forcément, les CIDFF ont du mal à subsister. Donc ce qui n'est pas notre cas dans les Landes, hein, on a quand même beaucoup de chance, puisqu'on existe depuis 1982. Hein, donc ça veut dire qu'effectivement, on a un département engagé sur toutes ces questions-là. Hein, puis malheureusement, avec l'actualité, on voit que ces questions sont toujours là, sont toujours présentes, hein, même s'il y a beaucoup de travail de fait, il y a toujours beaucoup de besoins.
Alors, est-ce qu'il y a une spécificité, enfin, je veux dire, il y en a une forcément par rapport au territoire, justement, quel serait le nombre de taux de cas que vous rencontrez, etc. Parce qu'on a un territoire rural et étalé, on n'a pas de grande ville, sans vouloir vexer personne. voilà. Et donc, du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait moins de cas, mais est-ce que l'isolement, l'étalement des gens fait qu'ils se retrouvent plus seuls et plus sujets aux violences, notamment les femmes?
Alors, je dirais que le département des Landes n'est pas épargné. On a un taux de violence qui est similaire au niveau national. On a la chance, par contre, hein, depuis quelques années, effectivement, de ne pas subir de féminicide sur notre territoire. Donc, ça veut quand même dire que l'implication de terrain est là et que les acteurs autour de ces questions-là sont bien actifs. Oui. Après, la difficulté qu'on a, effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est la ruralité. Nous, on est obligé de déployer plus de 20 permanences juridiques pour essayer de toucher un maximum de personnes du territoire. On est obligé de faire beaucoup de déplacements, beaucoup de routes pour aller toucher tout le monde. Parce qu'effectivement, on a la libération de la parole depuis quelques années, notamment MeToo a beaucoup aidé à ça. Mais il faut quand même des gens pour accueillir la parole et à proximité, puisque la ruralité rime aussi avec difficulté de mobilité.
Oui, tout à fait. C'est un sujet récurrent ici, bien entendu. Oui, vous disiez que la parole se libère. Malheureusement, elle se libère aussi de l'autre côté, parce que en ce moment, avec les réseaux sociaux, etc., les discours entre guillemets masculinistes, etc., c'est un peu la fête. Hein. Il suffit qu'il y ait un qui lance le bal, et puis après, tout le monde. Parce que là, on parle de la ruralité du territoire, mais il y a aussi l'aspect digital où c'est pas gagné non plus. Hein. Et là, on est tous à égalité, malheureusement.
Oui. Après, on a aussi un volet où on intervient en milieu scolaire. On fait de la prévention, justement, autour des réseaux sociaux, autour de plein de sujets qui touchent les jeunes. Et on espère que ça ait un impact sur eux et sur ce qu'ils peuvent voir et entendre, malheureusement, sur toutes les plateformes.
Oui, de toute façon, on sait que ce sont des choses qu'il faut commencer tôt. Hein. Je crois que vous disiez que vous aviez un petit garçon. Hein.
Oui.
Il y a des études, hein, on parle un petit peu de la testostérone des petits bourrins.
Ah ainsi, là là, hein. Oui.
Et c'est vrai que ça se joue dans le bac à sable, on disait les premières choses. Hein,
tout à fait.
J'ai entendu dire ça, et c'est vrai que si on observe, ça peut être intéressant d'ailleurs comme étude sociologique, hein, de se mettre sur un banc et de voir que bon, il y a majoritairement des mamans, plus que des papas, voilà, je crois.
Toujours.
Et voir le comportement des enfants. Et c'est vrai que c'est là que c'est d'entrée qu'il faut, il faut faire attention à ça, en fait. Hein.
Tout à fait. Ouais. Oui. Non, mais il sera bien formé au consentement.
Oui, bien sûr.
Et il a un super papa.
Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Oui, donc alors, vous avez dans vos activités, donc il y a une chose importante, c'est ces fameuses permanences, quand même, qui, justement, vous en avez 20, hein, sur les 20 endroits différents présents sur le territoire landais. Donc ça, c'est l'endroit où des gens peuvent venir ou appeler... et pour vous signaler des problèmes ou vous poser des questions, je suppose.
Donc on a 20 points de permanence qui sont animés donc par des juristes, hein, comme Clotilde, hein, Clotilde pourra aussi en débattre. Les gens prennent rendez-vous, hein, parce qu'on consacre une heure de temps par rendez-vous, hein, c'est pas des rendez-vous à la va-vite, hein, c'est où on prend le temps vraiment d'écouter la situation, de l'analyser au plus près pour pouvoir proposer. Alors on fait du conseil, on fait pas de conseil, on n'est pas avocat. Voilà, on fait de l'information juridique, donc voilà, il faut quand même un temps pour la personne, déjà pour qu'elle se sente à l'aise, pour qu'elle expose sa difficulté. Donc tout se fait par rendez-vous. Les rendez-vous se prennent en sens unique, c'est-à-dire simplement au siège de l'association à Mont-de-Marsan. Donc un appel, un rendez-vous au plus près de votre lieu d'habitation ou du lieu qui vous est le plus simple. On n'a pas toujours envie de se rendre sur une de nos permanences là où on habite pour ne pas être identifié, on peut le comprendre. Hein, donc on laisse la porte ouverte à la personne là où pour elle c'est plus simple de venir nous voir. Et effectivement, après, donc je vais laisser Clotilde sur vraiment le contenu, le déroulé de ces permanences.
Oui, on a vraiment une politique d'aller vers déjà parce que le territoire est très rural, donc c'est pour ça qu'on a ces 20 permanences. On propose du coup toujours aux personnes de venir nous rencontrer parce que déjà le contact humain, c'est ce qu'on privilégie le plus, surtout sur les problématiques de violence. Hein. Oui. C'est quand même important de rencontrer les gens et de pouvoir leur parler directement. Mais après, on a aussi la possibilité de faire des rendez-vous téléphoniques puisqu'on sait que la mobilité c'est un vrai enjeu sur notre territoire. Et au niveau des permanences, on s'y rend toutes les semaines, on a un roulement sur l'ensemble des permanences. De toute façon, on est 3 juristes dans l'association et on est sectorisé, donc on a un juriste qui fait tout le nord du département. D'accord. Donc le Mont-de-Marsan et tout le nord, une autre juriste qui fait toute la côte, de Mimizan jusqu'à la Benne à peu près. Et moi je m'occupe du territoire de la partie de la Chalosse, donc tout le Grand Axe, et puis après jusqu'à Aire-sur-l'Adour et puis Amou, donc vraiment aux limites du département en bas. Et voilà, les gens viennent nous rencontrer. Peu importe la problématique, on a souvent de la violence conjugale qui est abordée, même parfois quand c'est pas l'objet du rendez-vous, hein, en grattant un petit peu on se rend compte que c'était finalement la problématique principale. On évoque différents sujets, on fait de l'information juridique comme Bérangère l'a expliqué, donc on se substitue pas à un avocat, on n'a pas de stratégie juridique derrière, par contre on informe les personnes sur leurs droits et sur ce qu'elles peuvent mettre en place après, justement avec d'autres partenaires ou avec les avocats, pour sortir de la situation dans laquelle elles sont.
D'accord, très bien, merci déjà, on a déjà une bonne idée de ce que vous faites. On va parler un petit peu du service emploi avec Léa, parce qu'il paraît que c'est la spécialiste.
Tout à fait. Oui. Alors, le service emploi, c'est un grand nom, on n'est pas France Travail, on ne trouve pas de travail aux personnes. Nous, on accompagne uniquement des femmes, donc on appelle ça les ateliers femmes, où pareil, on se déplace sur le territoire tout au long de la semaine, et notre journée est coupée en deux, parce que j'interviens avec ma collègue Eolia. Et du coup, par exemple, le lundi, on est sur Saint-Paul-les-Dax et sur Tyros, donc c'est en demi-journée, mais pour les dames, c'est des journées complètes. On vient vraiment autour du sujet de l'estime de soi. Souvent des dames, comme je le disais tout à l'heure, qui ont eu des parcours de vie très compliqués avec des fractures vraiment importantes, où le but va être de leur redonner confiance en elles, des fois tout simplement d'arriver à se regarder dans un miroir pour potentiellement un retour à l'emploi, d'où ce nom de service emploi, mais c'est surtout et avant tout de la remobilisation sociale pour des dames qui sont très isolées et souvent très seules. Voilà pour le service emploi, ce que l'on fait majoritairement.
D'où l'explication de socio-esthéticienne.
Tout à fait,
Alors, on a parlé il n'y a pas longtemps avec un invité, je ne me rappelle plus lequel, des ateliers de colorimétrie. Ça fait partie des choses qu'on fait aussi, j'en avais parlé aussi à France Travail, parce que justement il y a des ateliers France Travail où on fait venir une personne qui dit un petit peu si on est plutôt d'hiver ou d'automne.
D'automne ou d'été, c'est ça.
Pour les temps de couleur, voilà, donc vous faites ce genre de choses.
Je fais ce genre de choses, je me suis formée à tout ça aussi. Du D'accord. coup, coup, ça fait partie du contenu des ateliers. C'est un programme en fait qui est établi sur l'année. On voit les dames de septembre à juin, une fois par semaine, enfin une fois par semaine sur trois semaines dans le mois. Et ensuite l'été, on le consacre à des sorties plus culturelles ou un peu plus fun. Typiquement cet été, on est allé faire du surf thérapie avec les dames des ateliers. D'accord. Donc voilà, on a plein d'activités autour qui sont vraiment sympas.
C'est vrai qu'on dit souvent, j'ai souvent entendu dire des femmes que si ça va pas, ben d'aller chez le coiffeur. Ça, c'est une chose que j'ai déjà entendu dire plusieurs fois. Ouais. Alors moi, c'est un problème qui me concerne pas. Enfin, non, on est à la radio, vous vous rendez pas compte, mais voilà. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il y a comment dire, des fois, ce qu'on a dedans se perçoit à l'extérieur, mais ça marche aussi. La membrane est perméable dans les deux sens.
C'est ça, tout à fait. Et c'est l'idée de l'image que l'on a de nous et qu'on renvoie, mine de rien, elle va impacter énormément l'estime qu'on a de nous-mêmes. Donc parfois, c'est pas se maquiller pour les autres ou des choses comme ça, c'est vraiment se sentir bien et sortir en étant à l'aise dans ses baskets.
Ça fait penser un petit peu à la démarche qui existe avec des femmes qui ont subi des opérations de chirurgie suite au cancer du sein. Il y a des tatoueurs, des tatoueuses spécialisées. Même, il y en a une qui est connue, elle est sur Bordeaux, elle est médecin, je crois. Justement, elle travaille, c'est son job aussi. Et elle travaille dans le tatouage, justement, pour le tatouage réparateur et pour reprendre un peu la main sur son corps, en fait. C'est ça, quand on souffre dans sa chair, on a besoin de faire quelque chose, en général.
Oui, c'est totalement ça.
Voilà. Très bien. Et vous faites beaucoup de choses. Les ateliers, il y a d'autres types d'ateliers aussi, à part celui-ci.
Non, en atelier, on a vraiment cette estime, l'estime de soi. Après, c'est toute la semaine. On intervient vraiment sur tout le territoire. Mais non, les ateliers, c'est vraiment ça. Et après, voilà, c'est les sorties plus culturelles l'été. Là, typiquement, on a fait dans un magasin éphémère des petites décos de Noël. Voilà, on essaie de sortir aussi un peu du quotidien et de faire des choses qu'elles n'ont pas forcément accès. De par une précarité souvent financière aussi, essayer de faire des choses qu'elles ne font pas habituellement. Quoi.
Il y a un aspect aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'aspect éducation, formation, transmission.
Oui.
Donc, en général, il y a plein d'associations qui ont des actions avec l'éducation nationale, avec les scolaires. Donc vous avez, je suppose, des partenariats, des fonctionnements avec des établissements.
Oui, alors on intervient en milieu scolaire et on intervient également au foyer de l'enfance. On a des partenariats avec le foyer de l'enfance sur Mont-de-Marsan, où du coup on fait des préventions, comme je vous le disais tout à l'heure, sur plein de sujets actuels, les dangers des réseaux sociaux, l'égalité homme-femme, les violences au sein des jeunes couples aussi, parce que c'est des choses, des mécanismes qui s'installent très très tôt. Et du coup, on essaie de les prévenir le plus tôt possible.
Là, c'est vrai que sur la dimension sensibilisation, on est plus sur de la sollicitation. C'est-à-dire que voilà, ça fait partie des missions qu'on porte. Mais c'est vrai que c'est souvent les structures qui viennent vers nous, souvent suite à un événement passé dans l'établissement. Du coup, ils se rendent compte que la problématique, elle est aussi présente dans leur établissement. Et nous, on va les rencontrer pour bien définir effectivement leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, des sujets, il y en a beaucoup. Il y a effectivement les réseaux sociaux, il y a les phénomènes pré-prostitutionnels, je dis bien pré-prostitutionnels, qui est envoi de nude, de ce genre de choses. Donc l'idée, c'est déjà de voir avec l'établissement leurs besoins et on construit autour de ça, Léa construit autour de ça une intervention et on passe environ 2 heures avec les groupes de jeunes. On essaie au mieux de pas faire de descendant puisqu'on sait qu'aujourd'hui la capacité de concentration est assez courte. Donc c'est vrai qu'on essaye vraiment de proposer presque des ateliers ludiques autour de la prévention. L'idée, c'est pas de leur donner, c'est pas de donner le savoir ou la certitude de quelque chose, c'est surtout de les amener à réfléchir à la posture qu'ils prennent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils peuvent dire et des impacts que ça peut avoir. L'idée, c'est vraiment qu'ils prennent une manière de réfléchir différente, moins rapide, puisqu'effectivement les réseaux imposent des réponses rapides c'est souvent pas le mieux en tout cas.
Là, c'est un sujet récurrent. Bon, j'avais reçu aussi la maison de protection des familles, etc. Et d'autres associations. On parle souvent aussi du problème du porno. Justement, on parle des jeunes, ça. Et puis, alors voilà, Voilà, c'est, c'est toujours la femme qui prend cher quand même, au bout du compte.
Majoritairement, voilà. Effectivement, sur ce genre de vidéos, en général, ouais. elles ne sont pas vraiment mises à l'honneur.
Voilà, ouais. Donc c'est vraiment un ennemi, contre lequel vous devez vous battre aussi.
Tout à fait.
Voilà. Moi, j'ai remarqué dans votre actualité, il y avait, vous avez sorti un petit, je ne sais pas si on peut employer le terme manifeste, ou un flyer qui est là un petit peu pour rappeler... certaines doléances à tous ces hommes politiques qui vont partir en campagne en ce moment, leur rappeler un petit peu la place des femmes et de certaines priorités qu'il ne faudrait pas oublier, notamment les valeurs que vous défendez et l'éducation, des tas de choses. Voilà, donc ça, je trouve ça c'est bien que ça existe.
Bah effectivement, comme on le disait, on est une association, donc on ne vit qu'à travers les subventions qui nous sont accordées. Donc, sur un premier plan, c'est au niveau des grandes orientations politiques que ça se joue, et après, la répartition se fait au niveau départemental. On sait aujourd'hui, alors on l'a toujours su, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même qui est très prégnant aujourd'hui, et pour pouvoir continuer à réaliser nos missions, et malheureusement, il y a de plus en plus de monde à devoir satisfaire, on a besoin que les politiques publiques continuent à nous soutenir. Alors effectivement, il y a beaucoup de questions qui se mettent sur la table ces derniers temps, notamment avec les municipales qui vont arriver. Mmh. Mais effectivement, des structures comme la nôtre existent, ont besoin d'exister et ont besoin de soutien financier pour pouvoir continuer à réaliser les missions. Donc nous, on est 7. Alors on est 10 salariés en effectif. On est 7 salariés sur le terrain. C'est un coût financier. Nous, on a aucun moyen d'entrer de l'argent propre, ou très très peu. Oui. Donc effectivement, c'est les territoires qui vont nous faire vivre. Donc on a besoin que les engagements sur nos missions portées soient reconnus et soient valorisés. Alors on sait, hein, c'est actuellement on n'entend que ça, hein, que les enveloppes diminuent pour tout le monde. Il y a peu de chances qu'on soit épargné. En tout cas, on défend au mieux les missions que l'on fait. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on soit les oubliés de ces prochaines élections, puisque l'année dernière, le CIDFF a été sollicité 3000 fois. Ça veut dire que sur le département des Landes, 3000 personnes ont pris contact avec nous, peu importe sur quel sujet. Ça veut bien dire qu'on répond quand même à une question publique, à une problématique publique, et que tout le monde doit en avoir conscience.
Très bien. Alors, il y a aussi, vous avez un flyer intéressant sur la violence. Je trouve ça vraiment intéressant, qui aborde différents sujets, notamment une chose qui est quand même, je pense, qui est intéressant de reprendre, c'est la sidération, cette notion de sidération. Parce que dans le cas d'une agression, après vous connaissez ce sujet mieux que moi, mais c'est vrai que la sidération, c'est un moment où la personne se trouve immobile, figé en fait, hein. Et je pense que c'est probablement le genre d'argument qu'utilisent les agresseurs en disant elle a pas dit non, donc elle a dit oui.
Exactement. Bon, ça va un peu changer maintenant avec la nouvelle loi, hein, sur le consentement, heureusement. Parce que effectivement c'était un des arguments sur lesquels appuient les personnes qui sont auteurs de violences conjugales. Et on a des victimes qui restent plus ou moins longtemps dans des états de sidération. Et en fait, déjà, toute la technique utilisée par les auteurs de violences conjugales ne permet pas vraiment aux femmes qui sont sans ressources ou à qui on ne tend pas la main de se sortir de ça d'elles-mêmes. Mais alors effectivement, quand on rajoute le critère de sidération par-dessus, c'est sûr que c'est très difficile pour elles de faire un pas... pour sortir de la situation dans laquelle elles sont. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'aller au plus près d'elles, et parfois ça nous prend plusieurs rendez-vous, hein, avant, enfin pour cheminer justement et faire ce travail avec elles sur ce qu'elles vivent actuellement, pour qu'elles puissent ensuite prendre une décision et partir de là où elles sont. C'est une vraie problématique pour nous aussi, parce qu'on se retrouve avec des personnes qui nous sollicitent 4, 5, 6, 7 fois même, avant de prendre une décision, mais voilà, à cause de cet état-là.
Alors, l'état de sidération, alors effectivement, c'est quelque chose qui est très compliqué pour nous sur nos prises en charge, puisque la reconnaissance du statut de victime, c'est ce qui permet d'engager... d'engager un accompagnement de sortie. Mais ce qu'il faut dire quand même aussi, c'est qu'on a quand même un cerveau formidable qui nous met dans cet état-là quand ce qu'on vit n'est plus acceptable. Oui. Donc ça permet, malgré tout...
De fuir le moment, la réalité.
C'est ça, c'est quand même une protection au départ, et heureusement pour certaines, mais c'est vrai que ça complique notre travail, puisqu'il faut déjà travailler sur la reconnaissance du statut de victime avec ces femmes qui sont dans cet état-là.
Oui, c'est vrai qu'on a vu dans certains cas... récents ou moins récents, mais des victimes qui tout à coup, des années plus tard, se disent « Ah mince, en fin de compte, il y a quelque chose qui se déclenche et des souvenirs qui reviennent, donc ça a été verrouillé quelque part dans la tête. Donc voilà, il y a dans ces violences, il y a le moment où ça arrive, mais après, il y a le passé aussi qui est entaché de... vous avez un travail psychologique à fournir dans vos relations avec les personnes que vous rencontrez.
C'est sûr que les juristes ont quand même pas mal de casquettes. Hein. Je ne vais pas toutes les énumérer, parce que je pense que s'ils l'entendent, ça va leur faire peur et je comprendrai. Effectivement, hein, elles ont quand même un accompagnement social à faire, hein, puisqu'on est quand même sur des gens qui sont en situation de vulnérabilité et ou grande précarité aussi, qui peuvent avoir effectivement des soucis psychologiques liés à ces événements passés. C'est sûr qu'un rendez-vous avec un juriste du CIDFF, on n'est pas sur un rendez-vous 100% juridique. Il y a toute cette dimension-là de prise en charge qui est faite et qui demande une adaptation des équipes qui est quand même très importante, puisque les gens qui viennent sont tous à des moments différents de leur vie, de leur parcours. Et tout ça doit être étudié, pris en charge pour pouvoir proposer un accompagnement adapté. Pour nous, la mission principale, c'est de ne pas perdre les gens. Ça veut dire que on doit être capable d'analyser où ils en sont, ce qu'ils ont besoin et quelle est la meilleure façon de les accompagner. Donc c'est vraiment, on est au-delà de l'information juridique telle que définit le métier de juriste.
Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en réseau avec les acteurs du territoire, hein, parce que quand on identifie des besoins, on redirige toujours et on essaye de travailler de manière partenariale autour de la personne pour que les choses dont elle a besoin actuellement en fait, viennent à elle et simplifient un petit peu les parcours de sortie de violence notamment, mais sur d'autres sujets aussi. On essaye de faciliter au maximum et de venir vers la personne pour éviter qu'elle ait à endosser aussi cette charge administrative, mentale en plus, quoi.
Oui. Après, violences, elles ne sont pas toutes physiques. Hein. Il y a cette notion d'emprise aussi. Voilà. Alors, j'ai déjà entendu l'histoire autour de moi. On a toujours entendu l'histoire de, entre guillemets, de femmes battues. Mais est-ce que... Je ne connais pas s'il y a des chiffres. Vous connaissez peut-être mieux que moi. Mais est-ce qu'il y en a des femmes dans cette situation qui arrivent à s'en sortir toutes seules? C'est-à-dire avoir le courage de dire je prends mes gosses sous le bras, la valise, je m'en vais, ou vraiment, dans 99% des cas, il faut vraiment une aide extérieure pour s'en sortir?
Alors, il y en a beaucoup qui viennent après être partis, hein, très honnêtement. On n'a pas que des personnes qui sont encore au sein de leur domicile, au sein de leur situation. On en a beaucoup qui viennent, qui sont partis, qui ont fait, qui ont déjà eu le courage de le faire et de faire certaines démarches toutes seules. Après, on vient souvent aussi en complément de cette démarche-là pour elles, parce que il y a souvent beaucoup de questionnements autour d'une séparation, autour d'un divorce même. Et c'est des personnes qui ont pris conscience des violences et qui sont parties, ou alors qui ont pris conscience simplement que la situation n'était pas acceptable et qu'il fallait qu'elles y mettent un terme, sans pour autant intellectualiser les violences dont elles étaient victimes. On fait ce travail aussi avec elles. Mais effectivement, les violences, elles ne sont pas que physiques. Hein. Dans l'imaginaire collectif, une femme battue, c'est une femme qui prend un coup. C'est quelque chose qu'on déconstruit beaucoup avec les femmes qu'on reçoit. Mais non, en fait, les violences, elles se manifestent de différentes manières. Et aujourd'hui, c'est très reconnu par les juridictions, la justice, la loi, et c'est pris en compte. Et il faut rappeler que les violences psychologiques, c'est la base de toutes les violences, de toute façon. Violences verbales s'y greffent souvent, les violences administratives, les violences parentales, les violences matérielles. Voilà, tout ça, c'est des vraies violences aussi qu'il ne faut pas considérer comme annexe, parce que généralement, ça fait un tronc, en fait, sur la violence qu'elles subissent au quotidien.
Très bien. Alors, je ne sais pas aussi, on a en tête ce profil-là du pervers narcissique. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai profil psychologique reconnu par le... je ne sais pas si ça existe vraiment, ça.
Non. Les professionnels, en tout cas, n'ont pas... Enfin, il n'y a pas d'étiquette, hein, pervers narcissique. Il y a des personnalités qui sont perverses, des personnalités qui ont des tendances narcissiques. Mais en fait, le pervers narcissique, c'est une étiquette qu'on entend.
C'est juste un sale type.
En fait, concrètement, en résumé, oui. En fait, ce sont des personnes qui sont auteurs de violences. Après, voilà.
Oui, parce qu'il y a différents profils d'auteurs.
Tout à
aussi.
Fait.
Ouais. Nous, ce qu'on va regarder, effectivement, c'est la qualification de la situation. Mm. Après, dans l'analyse de l'auteur, alors bon, déjà, ce n'est pas de notre compétence, mais on est capable quand même, avec un peu de recul, de voir qu'il y a différents types d'auteurs. Il y a des auteurs qui reproduisent simplement un schéma familial dans lequel ils ont évolué eux-mêmes plus jeunes. Mm. Il y a effectivement des gens qui sont en grande souffrance psychologique. Il y a vraiment différentes formes d'auteurs. Hein. C'est pour ça qu'il y a des prises en charge des auteurs qui est faite, hein, pour que ce soit aussi travaillé, puisqu'on a connaissance aujourd'hui qu'un auteur fait en moyenne 3 ou 4 victimes dans sa vie. Mm-hmm. Donc ça veut dire que nous, on va prendre en charge une victime, et c'est très bien, mais ça veut dire que si l'auteur n'est pas pris en charge, malheureusement, il va partir vers une autre victime aussi.
C'est ça.
Donc c'est vrai que le travail sur l'auteur est important, qu'il n'y a pas effectivement de cliché, il n'y a pas une reconnaissance particulière d'un auteur. Hein. On rencontre malheureusement des femmes de tout niveau social.
Oui. C'est important de le dire. Ouais. Ça touche pas que les
pas de
profil.
Oui, bien sûr.
Il y a pas de profil. Il y a forcément des choses qui vont majorer. S'il y a des addictions, forcément, ça majore les situations de violence. Oui. On est bien d'accord. Par contre, personne n'est malheureusement à l'abri. Mmh. Surtout, comme le disait Clotilde, on est quand même aujourd'hui beaucoup sur la violence psychologique. Violence psychologique qui est très dure à identifier. Ouais. Comme on le dit depuis des années, une fois qu'une porte est fermée, on ne sait pas ce qui s'y passe.
Mmh. Oui. Tout à fait. Et c'était Les Frangines, et ben voilà, c'est un titre qui n'a pas été choisi par hasard. C'est un titre qui vous va bien, moi je trouve. Voilà. Et alors, c'est la dernière partie de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter encore ? On a parlé aussi de la partie juridique. Hein. On voulait rappeler que ce n'était pas juste le rapport aux violences, c'est aussi l'information, parce que voilà, c'est important de connaître ses droits si on veut se défendre.
Tout à fait. On traite tout type de questions juridiques. On essaye d'y répondre au mieux. On n'est pas spécialisé dans tous les domaines, mais on se débrouille toujours pour avoir la réponse, même s'il faut aller la piocher auprès des partenaires. Donc voilà, on fait aussi de l'information juridique. Alors on est très très concentré sur le droit de la famille, séparation, divorce, garde d'enfants, pension alimentaire, etc. Mais sur le reste aussi, on peut éclairer les usagers s'ils en ont besoin.
Alors, et en termes d'actualité, d'atelier, c'est quoi le prochain atelier ? C'est quand et c'est où ?
Alors, le prochain atelier, ce sera début janvier maintenant, sur Saint-Paul-les-Dax. On reprend, j'ai pas la date en tête, mais je crois que ça doit être aux alentours du 7 janvier.
D'accord, et ça se déroule où ?
C'est sur une salle qui est située derrière Arun Taziev, et c'est sur prescription des travailleurs sociaux, généralement.
D'accord.
Ou du CIDEF, s'il y a rendez-vous. Voilà, Clotilde me prescrit régulièrement des personnes pour les étudiants.
D'accord. Et alors, si vous avez le micro, vous avez peut-être des choses à dire aux auditeurs, un appel, quelque chose, hein.
Moi, je dis souvent que de toute façon, on ne frappe jamais à la mauvaise porte quand on frappe à celle du CIDFF. Si on n'a pas totalement la réponse à la problématique ou qu'il y a besoin d'autres partenaires dans la boucle, on fera toujours le relais. Donc voilà, si vous avez une question, une interrogation, vous ne serez jamais au mauvais endroit en venant au CIDFF.
Très bien, c'est parfait ça. Moi, je pense qu'on le garde, ça. C'est enregistré, ça. Il faut, le garder. Il faut le garder. Bon, là, s'il y a la place sur le site web, je pense que c'est une phrase d'accroche qui peut être sympa. Une bonne punchline, c'est bien.
Pas mal.
Très bien. Ben, mesdames, merci d'être venues.
Merci à vous.
Merci pour ce que vous faites.
Merci de votre accueil. Merci
et voilà, beaucoup. N'oublions pas que les fables, ça représente quand même à peu près la moitié de l'humanité. Ce qui est quand même pas mal.
Merci
beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.